Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 3h en temps universel, 22h à Washington.
Mathis Limano.
La visite de Benjamin Netanyahou se poursuit aux États-Unis. Ce lundi, il a rencontré l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient avant d'être reçu demain, mardi, à la Maison-Blanche. Au programme des discussions avec Donald Trump, la deuxième phase de la trêve à Gaza, le Hamas, lui, s'est dit prêt à entamer les négociations. Donald Trump qui suspend pour un mois les tarifs douaniers sur les produits mexicains et canadiens. Il devait entrer en vigueur ce mardi. L'Union européenne se sait, elle aussi, menacée. Explication à suivre. Enfin, ce témoignage, synonyme d'espoir pour les proches de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, nos confrères morts au Mali en 2013. Il vient du livre d'Olivier Dubois, lui-même enlevé dans le pays. Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. On vous en parle dans cette édition. Benjamin Netanyahou est à Washington depuis ce dimanche. Le premier ministre israélien doit rencontrer ce mardi le président américain. Il sera le premier dirigeant étranger reçu officiellement à la Maison-Blanche par Donald Trump depuis son investiture. Une rencontre entre deux hommes qui s'apprécient et qui se connaissent bien, David Thompson. Ils doivent parler de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. De son côté, le Hamas s'est dit prêt à entamer les négociations.
Durant cette visite de travail de Benjamin Netanyahou, la Maison-Blanche se fixe trois objectifs. D'abord, établir les critères pour la libération des derniers otages toujours retenus par le Hamas, pour ensuite organiser le retrait militaire des troupes israéliennes et enfin prévenir le retour de la guerre à Gaza. Aujourd'hui à Washington, le Premier ministre israélien s'entretient avec l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient, l'omniprésent Steve Witkoff. Demain, tout un symbole, Benjamin Netanyahou sera le premier leader étranger reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump depuis son investiture, lui qui ne parlait quasiment plus avec son prédécesseur Joe Biden. L'autre enjeu crucial de cette visite, c'est celui de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite, interrompue tout net par l'attaque du 7 octobre. Sur ce dossier, Trump veut obtenir des concessions de Netanyahou, car avant d'accepter cette reprise, Riyad demande une solution viable pour les Palestiniens. Trump a donc un plan pour cela, un plan qu'il souhaite présenter à Netanyahou dès demain dans le bureau ovale. David Thompson, Miami RFI.
Donald Trump qui suspend pour un mois les tarifs douaniers imposés au Canada. Il devrait entrer en vigueur ce mardi, 25% sur tous les produits canadiens. Mais les négociations ont été satisfaisantes, estime le président américain qui s'est entretenu directement avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Plus tôt dans la journée, c'est le Mexique qui a annoncé la suspension également pour un mois des tarifs douaniers américains. En échange, Mexico va déployer 10 000 soldats à la frontière entre les deux pays. Et en Europe, Pierre Benazet, comment les 27 se préparent-ils face aux menaces de guerre commerciale lancées par Donald Trump ?
Les droits de douane à l'encontre de l'Europe, Donald Trump entend absolument en imposer, puisque les Européens sont selon lui de méchantes personnes qui n'achètent aux États-Unis ni voitures, ni hydrocarbures, ni produits agricoles. Pour le président français Emmanuel Macron, la réponse est simple.
Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir.
Cet avis est partagé par beaucoup, car les droits de douane à l'encontre du Canada et du Mexique sont un réveil pour ceux qui refusaient de croire que Donald Trump passerait de la parole aux actes. Olaf Scholz, chancelier allemand.
En tant qu'espace économique fort, nous pouvons façonner nos propres activités et réagir aux politiques douanières par une politique douanière. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous ferons. Mais nous devrions avoir pour perspective et pour objectif d'agir de manière à ce que cela débouche sur une coopération.
Les instruments sont prêts car la Commission européenne a préparé des mesures de rétorsion en recensant tous les secteurs où elle pourrait imposer d'éventuels droits de douane, des mesures miroirs. Reste à voir maintenant si ce discours de fermeté empêchera à lui seul Donald Trump de déclencher une guerre commerciale. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et les tarifs douaniers de 10% sur les produits chinois doivent toujours entrer en vigueur ce mardi. Mais Donald Trump a laissé entendre que des discussions avec Pékin auront lieu dans les prochaines heures. Enfin, dans la politique migratoire du président américain, le Salvador propose aux États-Unis de recevoir des prisonniers détenus aux États-Unis, y compris des ressortissants américains. Proposition faite par le président salvadorien Nayib Bukele à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain en tournée en Amérique latine.
RFI.
Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. C'est le titre du livre d'Olivier Dubois, sorti la semaine passée. Le journaliste enlevé à Gao, au Mali, le 8 avril 2021, livre dans cet ouvrage, ce journal de captivité, sa vie quotidienne dans le désert au nord du Mali. Malgré la détention, il poursuit son travail de journaliste en prenant des notes, en questionnant notamment ses geôliers sur les assassinats de nos confrères, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre 2013 à Kidal. Juste avant sa libération, Olivier Dubois a rencontré Sedan Aguita, l'un des cadres d'Al-Qaïda, qui reconnaît alors être le commanditaire de l'enlèvement de nos confrères et qui affirme que leur mort est la conséquence du survol de l'armée française. Ce témoignage est un espoir pour les familles de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Guillaume Thibault.
Si les familles de nos confrères, comme Olivier Dubois d'ailleurs, se questionnent sur la valeur à donner aux propos de Sedan Aguita, la volonté reste de faire progresser l'enquête. L'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon a demandé une nouvelle déclassification de documents de l'armée française. C'est ce qu'explique la porte-parole de l'association, Daniel Gonneau.
Y a-t-il eu une interférence avec l'armée, avec les forces spéciales ? Tant que nous n'avons pas les documents qui justifieront de leurs actions réelles, en particulier le compte-rendu des forces spéciales de Kidal, nous ne pourrons que nous poser des questions.
Devant les médias, Olivier Dubois a toujours affirmé que Sedan Aguita, lors de sa rencontre avec lui la veille de sa libération, avait évoqué un survol du commando par l'armée française. L'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, maître Marie Dosé, estime néanmoins que l'ex-otage a été moins clair devant le juge et qu'une nouvelle audition serait envisageable.
Il n'indique absolument pas que Sedan Aguita lui aurait parlé de ça. Il est tout à fait possible, en droit, de solliciter une nouvelle édition pour recueillir les observations du témoin. Je verrai, le moment venu, ce que mes clients souhaitent que je fasse. Nous verrons bien.
Sur les 4 membres du commando qui ont assassiné nos confrères, un seul serait encore en vie, un certain Amédou Agmohamedi. Interrogé par Olivier Dubois sur l'existence de cet homme, Sedan Aguita lui a répondu « Nous n'avons personne de ce nom chez nous ».
Guillaume Thibault, service Afrique de RFI. L'info sur le continent, c'est bien sûr la RDC et la situation toujours très tendue dans l'est du pays. L'approvisionnement de la population a débuté à Goma, la capitale du Nord Kivu, qui est sous le contrôle du M23 soutenu par le Rwanda. Son dirigeant, Paul Kagame, est attendu, comme le président congolais Félix Tshisekedi, à un sommet extraordinaire ce week-end en Tanzanie. Malgré l'appel au calme lancé par les autorités grecques, c'est la confusion qui règne à Santorin. Des milliers d'habitants ont déjà quitté l'île par avion et par ferry. Ce haut lieu du tourisme en Grèce est touché par une activité sismique inhabituelle, plus de 200 secousses en quelques jours. C'est une affaire devenue emblématique du mouvement MeToo en France. Le cas du réalisateur Christophe Ruggia, accusé par l'actrice Adèle Haenel d'agression sexuelle. Les faits remontent au début des années 2000, alors que l'actrice était adolescente. Et près de 25 ans plus tard, la justice vient de trancher. Le cinéaste est condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique. On écoute Adèle Haenel à la sortie de l'audience.
Ce que je disais dehors, c'est que je voulais vous remercier en fait... Je l'ai dit, mais j'étais un peu assaillie. Juste merci à toutes et tous d'être venus. Et de faire avancer les droits humains, tout simplement, par votre présence. Et le fait que, voilà, qu'on laisse pas tomber, quoi. Il faut qu'on fasse soin de nous. Merci beaucoup. On est ensemble, en fait.
Et pour sa part, la défense de Christophe Ruggia a annoncé faire appel de la décision. Toujours en France, un sursis semble se profiler pour le gouvernement. Malgré les 2-49-3 annoncés par François Bayrou et 2 motions de censure qui en découlent, le Parti Socialiste, qui avait en main une partie de l'avenir du gouvernement, a annoncé qu'il ne votera pas la censure. Du côté du Rassemblement National, on continue d'entretenir le suspense. Sa décision sera connue mercredi au moment de l'examen de la motion de censure. Le député RN Julien Audoul.
La censure est quelque chose de sérieux, c'est pas un fantasme, c'est pas un jouet, et donc nous devons en regarder ça de près. Une position sera arbitrée par Marine Le Pen, Jordan Bardella, après concertation du groupe Rassemblement National. Nous, contrairement à certains, notamment à gauche et à extrême gauche, on n'est pas des excités, on n'a pas la censure compulsive ou précoce. Nous, on regarde uniquement selon l'intérêt de la France et des Français. Donc très clairement, c'est un mauvais budget, ça nous le savons. N'attendions pas de miracle de M. Bayrou. Après, la discussion, c'est de savoir est-ce qu'il y a plus de conséquences fâcheuses à censurer qu'à laisser passer ce budget. C'est un arbitrage que nous allons prendre.
Le député du Rassemblement national Julien Odoul avec Victorien Villaume depuis l'Assemblée nationale. Les motions de censure de la France insoumise seront examinées au Palais Bourbon ce mercredi. RFI, il est presque 4h10 à Paris. Une heure de moins en temps universel. Merci à vous d'avoir suivi ce journal.